الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا فيما يتيسر من شرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين، أو عفوا لشيخنا الفاضل عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ سليمان ابن عبد الله القصيري حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب عشرة النساء. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح. طيب، فقال الشيخ سليمان حفظه الله: فإن أصرت بعد الوعظ والهجر انتقل إلى الضرب، فيضربها ضربا غير مبرح، أي غير الشديد. حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. أخرجه مسلم. فلا يجوز له المبالغة بالضرب بحيث يجرح الجلد، ولا يوالي الضرب في موضع واحد، وعليه أن يجتنب الوجه والبطن والمواضع المخوفة، لحديث معاوية بن حيدة المتقدم، وفيه: ولا تضرب الوجه ولا تقبح. ولأن المقصود من الضرب التأديب وليس الإضرار. Donc on poursuit inshallah l'explication de Manhaj Salikin de l'imam Sa'di rahimahullah. Donc il dit l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala, toujours dans le chapitre tayyib de la cohabitation, yani avec les femmes, du comportement à adopter envers elles, il dit: si la femme n'est pas dissuadée de désobéir, yani à son mari, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dissuadée de lui obéir dans le fait d'honorer les droits de son mari sur elle. Si elle persiste à ne pas respecter les droits de son mari sur elle. On avait dit, d'accord, que au début, il devait la conseiller. Il devait l'exhorter. Ça y est, c'était là la première étape. Naam. Et si, malgré cela, elle continue et persiste dans sa désobéissance, eh bien, l'homme pouvait passer à la deuxième étape, qui est le fait qu'il s'éloigne d'elle au niveau du lit conjugal. Hein? Il ne dort plus avec elle, que ce soit dans la même pièce, ou alors de la même pièce, mais pas dans la même couche, ou dans la même couche, mais en lui tournant le dos. Taïeb. Naïna. Et là, on va passer donc à la troisième étape, qui, malgré Donc, si la femme, malgré ces deux étapes-là, persiste dans le fait qu'elle ne respecte pas les droits de son mari sur elle, il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, eh bien, il peut la taper. Mais d'une manière qui n'est pas forte, ni violente. D'accord? Pas fortement, ni violemment. Donc, il dit le Cheikh Souleymane, hafidhahullah ta'ala, donc si elle persiste malgré les exhortations, malgré le fait que le mari s'est éloigné de sa femme dans le lit, eh bien, il peut passer à la troisième étape, qui est le fait de la corriger ou de la taper. Mais d'une manière non violente, ni forte. Taïeb? Naam. Et cela en vertu du hadith de Jabir, radiallahu anhu, qui a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et si elles font cela, eh bien, frappez-les, lakin darban ghayra mubarrih. Donc le terme ghayra mubarrih, ça veut dire non violemment, non fortement, non intensément. D'accord? Hadith rapporté par l'imam muslim. Donc il n'est pas permis d'exagérer en cela jusqu'à, par exemple, blesser la personne ou provoquer des hématomes ou des marques sur la peau de son épouse. Et également, la personne ne doit pas la frapper plusieurs fois au même endroit, de manière successive, mathalan, par exemple. Il doit bien sûr s'éloigner du visage. T'as pas le droit de taper le visage, de toucher le ventre aussi, ou les endroits, yani, qui sont risqués, d'accord? Les endroits qui peuvent être endommagés si l'on frappe dessus, si l'on touche dessus, si l'on tape dessus, pardon. Hein? Si ce n'est pas, encore une fois, on a dit à condition que ce n'est pas violent, d'accord? Et que ce n'est pas un endroit qui risque de la blesser ou de lui provoquer une blessure. Taïeb. Donc le dos fait partie aussi des endroits qui peuvent être risqués par rapport aux organes qui sont, il y en a juste derrière le dos. Wallahu a'lam, surtout si la femme, elle est d'une constitution, elle est faible, hein, et chétive. Taïeb. Et c'est la vertu du hadith de Muawiyah, Ibn Hayda, qu'on a vu, dans lequel il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne frappe pas le visage et ne l'insulte pas, de par son visage. D'accord? Pourquoi? Parce que l'objectif ici du fait de la corriger, c'est pour qu'elle se réforme et non pas pour lui faire mal. C'est pas pour lui faire mal, c'est pas pour la nuire, mais c'est pour qu'elle se réforme. Non.
Et si sans exprès tu la blesses, tu l'as blessée, tu l'as fait mal, mais sans faire exprès, c'est grave ou pas?
Mais oui, dans ce cas-là, tu seras en tort. Tu seras en tort, ça veut dire que tu auras exagéré dans en cela. Taïeb. Wama'a anna darba zawja عند نشوزها بعد استنفاء بعد استنفاد وسيلة الوعظ والهجر مشروع إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كره ضرب الزوجات وإنما أباحه حين يكون رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه وعليه فلا ينبغي إلا لداع قوي فعن إياس بن عبد الله بن أبي ذؤاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذائر النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم رحمة الله عليهم. D'accord? طيب. Donc, même si le fait de frapper l'épouse lorsqu'elle ne veut pas, elle refuse d'obéir à son mari dans le bien, dans ce qui lui est obligatoire d'obéir, et qu'elle montre de l'aversion pour son mari, etc. Et après, bien sûr, que le mari ait épuisé toutes les étapes précédentes, telles que l'exhortation et telles que le fait de s'éloigner d'elle dans le lit, même si le fait de la frapper est légiféré, eh bien, il faut savoir que le prophète, alayhi salatu salam, détestait cela. Détestait que l'on frappe les épouses. Et il ne l'a permis, en vérité, que lorsque, on est sûr que lorsqu'on va avoir recours à ce moyen-là, la femme va revenir à la raison et va, respecter les droits de son mari. Taïeb. Donc, à condition que l'on soit sûr, taïeb, que si on a recours à ce procédé, après, bien sûr, les deux premiers procédés qui sont, l'exhortation, puis l'effet de s'éloigner dans son lit, hein, on pourra passer à la troisième étape, à la troisième solution, que si nous sommes sûrs que la femme va réagir de la bonne manière, elle va revenir à la raison pure pour respecter les droits de son époux. D'accord? Donc, en vertu de cela, il sera interdit d'utiliser ce troisième procédé-là, sauf s'il y a une raison vraiment forte, un motif vraiment qui justifierait totalement le fait de faire ça. Taïeb. Selon Iyas ibn Abdullah ibn Abi Dhu'ab, radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: ne frappez pas les servantes d'Allah. D'accord? Ne frappez pas les servantes d'Allah. Lorsque Omar vint au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: les femmes se montrent orgueilleuses par rapport à leurs époux. Les femmes ne respectent pas leurs époux. Hein? Ne respectent pas leurs époux, se montrent orgueilleuses et, si vous voulez, font preuve d'irrespect envers leur mari. Et à ce moment-là, lorsque Omar a dit ça au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a autorisé que leur mari les frappe. Puis, il dit ici, le transmetteur du hadith, après cela, beaucoup de femmes se sont plaintes auprès des épouses du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, se sont plaints de leurs époux. C'est-à-dire qu'après que le prophète ait autorisé cela, bien les hommes se sont mis à frapper leurs épouses. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ces femmes-là sont allées voir les femmes du prophète pour se plaindre. Et là le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: beaucoup de femmes sont allées voir les femmes de Mohammed, alayhi salatu wassalam, et se sont plaintes de leurs époux. Eh bien, sachez que ceux-là ne sont pas les meilleurs d'entre vous. Ceux-là ne sont pas les meilleurs d'entre vous. C'est-à-dire que ceux qui frappent leurs épouses ne sont pas les meilleurs hommes d'entre vous. Non. Donc le hadith rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah, et authentifié par l'imam Al-Hakim, rahimahumullah. Non.
Il avait autorisé de frapper les épouses, mais alors pourquoi quand les époux ils ont frappé parce que c'était irrespectueux, il me dit vous n'êtes pas lumière de.
On ne sait pas si elles étaient respectueuses. Yani, peut-être qu'elles étaient frappées injustement. Ou peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait leur faire comprendre que c'est vraiment la dernière solution et qu'on doit le faire que si vraiment il y a un intérêt à le faire. Car s'il n'y a pas d'intérêt, on ne doit pas le faire. C'est pour montrer aussi qu'il était détestable de le faire. Voyez? Donc une chose peut être permise dans certains cas et peut être aussi détestable ou interdite dans d'autres situations et d'autres contextes. Voyez? Enam. Alhamdulillah. طيب. فهذا العلاج الثالث إذا لم ينفع الأول والثاني وهو ضربها ضربا غير شديد لأن القصد التأديب والزجر ليس القصد الإيلام والإيذاء مثل أن يضربها بيده أو بعصا خفيفة أو بالسواك ونحوه بحيث لا يشق جلدا ولا يكسر عظما ولا يضرب بالوجه ولا المواضع المخوفة كالبطن، ويزيد على 10 جلدات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم، رواه البخاري ومسلم. Donc, ça c'est le troisième procédé, le troisième traitement, le troisième remède auquel on peut avoir recours à condition que les deux premiers n'ont pas fonctionné. Et encore une fois, donc c'est le fait de la frapper, mais de manière non violente, non forte. Parce que l'objectif, c'est le fait qu'elle se réforme, et l'objectif, c'est le fait de la blâmer, de la réprimander, et non le fait de lui faire du mal, ou de l'abîmer, ou de la nuire. Là, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'elle se réforme, qu'elle revienne à la raison. Vous voyez ? Donc il peut la frapper, par exemple, avec sa main, d'accord ? Avec sa main, bien sûr, de manière, encore une fois, non violente, ou avec un petit bout de bâton fin, léger, ou avec un siwak, vous voyez, il y a un petit siwak, hein, et autre que cela. Et lorsqu'il recourt à ce procédé, bien sûr, il n'a pas le droit de lui provoquer, encore une fois, des hématomes, des marques, de lui déchirer la peau, ou de lui casser un os, encore moins, vous voyez, ni le visage, ni il n'a pas le droit de toucher ni le visage, ni les endroits du corps qui sont fragiles, tels que le ventre et autres que cela, et il ne doit pas dépasser 10 coups, d'accord ? Comme il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne frappez pas vos femmes comme les esclaves se feraient frapper, et pour ensuite faire ou avoir des rapports avec elles à la fin de la journée, d'accord ? Et comment pouvez-vous frapper vos femmes comme les maîtres frapperaient leurs esclaves pour qu'à la fin de la journée, vous ayez des rapports conjugaux avec elles. Taïeb, hadith, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïeb. ثم قال المؤلف رحمه الله ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، أي يمنع الزوج من هجر وضرب زوجته إن كان نشوزها بسبب منعه شيئا من حقوقها كالنفقة أو العشرة بالمعروف ونحو ذلك، فلها الامتناع عن أداء حقوقه حتى يوفيها حقها، لأنه يكون ظالما بطلبه حقه مع منعه حقها. Puis dit l'auteur, rahimahullah ta'ala. Maintenant, un détail qui est très important, le mari n'aura pas le droit d'utiliser ni le premier procédé, ni le deuxième, ni le troisième, si lui n'honore pas les droits de sa femme. D'accord ? Si le mari ne respecte pas les droits de sa femme, il n'aura pas le droit d'avoir recours à ces trois procédés-là. Vous voyez ? On a dit l'exhortation, puis le fait de ne pas dormir avec elle, ou dormir avec elle mais en lui tournant le dos, et enfin le troisième et la dernière étape, il y en a vraiment l'étape ultime, d'accord ? Eh bien, le fait de la frapper. Mais, on a dit, le mari n'aura pas le droit de faire cela, l'exhorter, bien sûr, il exhorte, alhamdoulilah, mais il n'aura pas le droit de lui faire le hajr, c'est-à-dire de s'éloigner d'elle au moment de dormir, ou de la frapper, si la cause ou la raison pour laquelle sa femme ne lui donne pas ses droits, en vérité, c'est lui. Car c'est lui à la base qui ne donnait pas les droits à sa femme, qui ne voulait pas ou qui refusait de dépenser pour elle, ou qui refusait d'avoir un bon comportement avec elle, ou qui refusait d'avoir une bonne compagnie conformément à la bienséance avec son épouse et autre que cela. Taïeb. Donc vous comprenez que lorsque le mari ne respecte pas ces droits-là vis-à-vis de son épouse aura le droit, elle, à son tour, de ne pas honorer les droits de son mari tant qu'il ne respecte pas les droits de sa femme. D'accord? Parce que c'est lui qui aura été à la base injuste. Voyez, injuste, et en plus il est injuste, à plus forte raison, de demander à sa femme de respecter ses droits alors que lui ne respecte pas les droits de sa femme. Voyez, est-ce que c'est clair? إذن التأديب بالمراتب الثلاث إذا كان النشوز من المرأة أما إذا كان النشوز من الرجل بأن يمنع حقها من العشرة أو من النفقة أو من الكسوة أو منها جميعا فإنه يمنع من تأديبها بشيء من المراتب الثلاث بل لها أن تتبرم منه وتمتنع منه ويذكر بحقها علي بحقها عليه وبعدم نسيان الفضل بينهما. Donc, on répète, le fait de la réformer et de la sermonner à travers ces trois étapes que l'on a vues là, c'est lorsque, bien sûr, la désobéissance, la faute provient de la femme. Mais si la désobéissance et le non-respect des droits vient au contraire de l'époux, du fait qu'il en a dit qu'il ne respecte pas les droits de sa femme au niveau du comportement, au niveau de la compagnie, au niveau des dépenses, au niveau de l'habillement, et même au niveau de tout cela en même temps, eh bien, il lui sera interdit, du coup, de l'éduquer, de la réformer par ces étapes-là, ces trois étapes. D'accord? Il devra, donc elle en a dit, elle pourra même hein, se montrer elle pourra montrer un visage, bien sûr, qui sera renfrogné et fermé à cause de ce qu'il fait. Elle pourra même s'abstenir et se refuser de lui donner ses droits et de lui rappeler donc les droits qu'elle a sur lui, voyez, et de ne pas donc oublier le mérite et les droits de l'époux sur son épouse, ainsi que ceux de l'épouse sur son époux. Est-ce que c'est clair? Non.
ثم قال وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان فما فعل جاز عليهما والله تعالى أعلم.
نعم. إذن إن خيف الشقاق بينهما هذا العلاج الرابع إذا لم يعني توجد المراتب الثلاث وهو إذا اتسع الشقاق والخلاف وكل يدعي صوابه وخطأ صاحبه في جلوته رحمه الله تعالى lorsque l'on craint ni la séparation ou la désunion entre les deux. Donc là, on passe à la quatrième étape. À la quatrième étape, lorsque les trois premières étapes, n'ont pas été concluantes. D'accord? Et lorsque donc la désunion et la divergence vraiment se sont aggravées et que chacun reste positionné sur sa position et yani, prétend qu'il a raison et que l'autre a tort. Donc on passera à la quatrième étape ou au quatrième procédé. Il dit ba'atha al-hakimu hakaman min ahlihi. Al-hakim, donc le juge, fera envoyer un arbitre de la famille de l'époux. Le juge enverra un arbitre de la famille de l'époux. Idhan yatawalla يعني بعث الحكمين الإمام أو نائبه أو الصالحين لأن الغرض هو الإصلاح والحكم من أهله هو الحكم الأول من أهل الزوج والمطلوب في الحكم أن يكون عالما بالشرع عالما بالحال ذا خبرة وأمانة عدلا. Donc on a dit, le juge pourra envoyer un arbitre du côté de la famille de l'époux. D'accord? Donc le juge, le dirigeant, l'imam, ou s'il n'y a pas les gens, les responsables musulmans vertueux pourront envoyer cet arbitre-là. Parce que l'objectif, c'est la réconciliation. D'accord ? Donc, le hakem, l'arbitre de la famille de l'époux, c'est le premier arbitre ici. D'accord ? Et ce qui est recherché, donc, ici dans l'arbitrage, ou dans le hakem, dans l'arbitre, c'est que cet arbitre-là doit être, bien sûr, connaisseur, savant de la législation, ainsi que de l'état aussi, de la situation des époux et des épouses, qu'ils soient expérimentés, qu'ils soient loyaux, qu'ils soient honnêtes, sincères, et bien sûr connus pour sa justice et son équité. Voyez ? Non. وكذلك حكما من أهلها فهذا الحكم الثاني من أهل الزوجة ويكون رجلا عدلا ويشترط في الحكمين أن يكونا رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين ويعرفان الجمع والتفريق وتخصيص الأهل لهما لأن أقاربهما أعرف بحالهما من الأجانب وأشد طلبا بالإصلاح وفائدة الحكمين أيخلو كل واحد منهما بصاحبه ويستكشف منه حقيقة الحال ليعرف رغبته في دوام الحياة الزوجية أو المفارقة ثم يجتمع الحكمان فيفعلان ما هو المصلحة ما هو المصلحة فالزوج يوكل حكمه في طلاق أو قبول عوض عليه والزوجة توكل حكمها في الفرقة. Donc bien sûr, le juge pourra aussi envoyer en même temps un arbitre du côté de la femme, de la famille de la femme. D'accord ? Donc ça c'est le deuxième arbitre originaire de la famille de l'épouse. Et il faut qu'il soit un homme équitable. D'accord ? Un homme équitable. Donc, les deux arbitres se doivent d'être. Donc, deux hommes responsables, yani religieusement, musulmans, justes, équitables, bien sûr, doués de raison. Et ces deux-là doivent être connaisseurs de ce qu'il se passe, bien sûr, entre les époux et les épouses, et doivent savoir les raisons pour lesquelles on devra donc soit réconcilier et faire en sorte que les deux époux restent ensemble, ou soit les raisons pour lesquelles on devra les séparer. D'accord ? Quel sera l'intérêt pour eux deux dans cette affaire-là ? Mais on a dit qu'ils soient de leur famille respective, parce que les proches de ces deux personnes-là, bien sûr, connaissent plus leur situation que les étrangers, taïeb, et ont plus le désir, plus que les étrangers, de réconcilier et d'arranger les choses. D'accord ? Donc l'intérêt à ce que ces deux arbitres-là soient présents, eh bien, c'est qu'ils pourront donc du coup s'isoler avec donc chacun des membres hein, de sa famille et vont analyser la véritable situation. Ils vont analyser et étudier la situation réelle, véritable, afin de savoir, déjà premièrement, afin de savoir et de connaître le désir de l'homme. Est-ce qu'il veut continuer? Est-ce qu'il veut persister dans l'union avec sa femme? Ou au contraire, yani, est-ce qu'il veut s'en séparer? D'accord? Ensuite, les deux arbitres pourront se réunir par la suite et pourront décider ce qui sera le mieux ou ce qui présente un intérêt le plus grand pour les deux époux. Donc le mari, lui, il va mandater son arbitre, que ce soit dans le divorce ou dans le fait d'accepter une compensation, d'accord, par rapport au divorce. Et la femme, elle mandatera également un arbitre de sa famille dans la séparation. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am. يعرفان الأمور والجمع والتفريق يجتمعان إن رأيا بعوض غيره أو يفرقان فما فعلا جاز عليهما. أي يجوز للحكمين أن يجتهدا في عمل الأصلح للزوجين العلاج الخامس. فإن لم يتفق الحكمان أو لم يوجد وتعذرت العسرة بالمعروف بين الزوجين نظر القاضي في أمرهما وفسخ النكاح حسب ما يراه شرعا بعوض أو بدون عوض. بيجلوت رحمه الله تعالى. Donc ces deux arabites qui connaissent les choses et les raisons pour lesquelles on devra soit les réunir, les laisser réunis dans l'union, ou soit les séparer. Puis ils se réunissent et s'ils voient qu'il faille verser une compensation ou une indemnité et autre que cela pour qu'ils restent ensemble, ou au contraire les séparer, eh bien ce qu'ils feront, cela sera exécuté. Bi'idhnillahi azza wa jal. D'accord ? C'est-à-dire qu'il sera permis aux deux arbitres donc de faire un effort de réflexion, d'analyse, d'étude pour faire ce qui est le mieux pour les deux époux. Ce qui est le mieux pour les deux époux. D'accord ? Donc si les deux arbitres sont unanimes et d'accord, ou s'il n'y en a pas, s'il n'y a pas d'arbitre, d'accord, et qu'il est impossible d'arranger les choses et de faire en sorte que les deux époux vivent conformément à la bienséance, eh bien le juge, le dirigeant, le juge, regardera leur cas et pourra donc faire annuler le mariage en fonction de ce qu'il verra religieusement, que ce soit par une compensation ou non. D'accord ? Que ce soit par une compensation ou non. طيب. الحمد لله. فقال الشيخ سليمان حفظه الله أي نفذ على الزوجين لقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. Donc pour finir inshallah ta'ala, c'est-à-dire que lorsque la décision sera prise par les deux arbitres, eh bien devra être respectée et honorée. طيب, car il dit Allah tabarak wa ta'ala dans la surat An-Nisa, verset 35, dans le sens du verset, si vous craignez une désunion entre les deux époux, envoyez un arbitre de la famille du mari et un arbitre de la famille de l'épouse. Si les deux arbitres veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah rétablira l'entente entre eux. فمهمة الحكمين تتلخص في أنهما يسألان الزوجين عن سبب الخلاف وماذا ينقم كل منهما على الآخر ثم يحاولان الإصلاح فإذا رأيا تقاربا حث كل من الزوجين على التنازل للآخر عن بعض حقه وذكراهما بأهم قاعدة يعيش عليها الزوجان وهي التغافل والتسامح فإذا لم يتغافل كل من الزوجين عن عيوب الآخر فستتحول حياتهما إلى خصام مستمر فإذا وجد أحدهما نقصا أو خطأ في شريكه فينبغي عليه المسامحة. Donc ici la tâche, la fonction de ces deux arbitres là se résume au fait qu'ils doivent interroger le deux-époux sur les raisons de la désunion, sur les raisons des divergences qu'il y a entre les deux et les choses que chacun reproche à l'autre. Ensuite, ils vont essayer d'arranger les choses. Ils vont essayer d'abord de réformer et de réconcilier les deux personnes. S'ils voient que donc le rapprochement, la réconciliation est meilleur, ils vont encourager les deux époux à pardonner, à fermer les yeux, yani sur certains, également sur certains de leurs droits. D'accord? Et ils vont également leur rappeler la plus grande règle de la vie conjugale, qui est at-taghafoul et at-tasamuh. C'est-à-dire le fait de fermer les yeux sur certaines choses et de pardonner. Hein? L'indulgence, le pardon et le fait de fermer les yeux et d'oublier certaines choses. Mais si les deux ne veulent pas fermer les yeux, ils ne veulent pas yani, tolérer les défauts de l'autre, eh bien, la vie conjugale deviendra yani, une dispute perpétuelle et constante. D'accord ? C'est pour ça que lorsque l'un des époux voit un défaut ou une erreur chez son compagnon ou sa compagne, eh bien, il faut que la personne pardonne et soit indulgent. وإذا احتاج الصلح إلى الشروط كدفع عوض أو غيره وراء الحكمان ذلك فإنها تكون ملزمة لكلا الزوجين. Donc lorsque la réconciliation elle a besoin de certaines conditions telles que le fait de verser une compensation une financière par exemple ou matérielle ou de verser une indemnité et que les deux arbitres voient que c'est une bonne chose, eh bien, cela deviendra obligatoire pour les deux époux. وَإِنْ رَأَى الْحَكَمَانِ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الصُّلْحِ وَأَنَّ النُّفْرَ بَيْنَهُمَا شَدِيدًا وَلَيْسَ لَهُمَا إِلَّا الْفِرَاقِ فَيَرْفَعُ الْحَكَمَانِ ذَلِكَ إِلَى الْحَاكِمِ ثُمَّ الْحَاكِمُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَيَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُقَصِّرُ فِي حَقِّ زَوْجَتِهِ بِأَنْ كَانَ ظَالِمًا لَهَا بِمَنْعِ النَّفَقَةِ أو معاملتها بقسوة غير ذلك أجبره الحاكم على طلاقها وليس له عليها شيء بل عليه دفع ما لها عليه من نفقة سابقة ونحوها. Donc lorsque les deux arbitres voient qu'il n'y a plus aucun recours et plus aucune solution qui pourrait mener vers la réconciliation et que l'aversion et la détestation entre les deux époux est trop forte et qu'ils n'ont comme solution que la séparation, eh bien, l'affaire sera devra être présentée au juge, d'accord? Les deux arbitres présenteront cette affaire-là au juge. Ensuite, le juge, lui, déclarera la séparation et la désunion, d'accord? Puis, on va regarder si le fautif ou si la négligence provient de l'époux, qui a négligé les droits de son épouse en étant injuste, en refusant, par exemple, de lui verser yani, les dépenses obligatoires en sa faveur, ou le fait qu'il se comporte avec elle avec brutalité, avec cruauté et autre que cela, eh bien le juge pourra contraindre le mari à annoncer la répudiation de sa femme, et bien sûr, il n'aura droit à aucune compensation. D'accord ? Au contraire, il devra même verser les dépenses qu'il aurait dû verser hein, dans les temps ou dans les mois précédent ou les années précédentes, et autre que cela. وَإِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةِ هِيَ الْمُقَصِّرَةِ فِي حَقِّهِ بِأَنْ تَكُونَ كَارِهَةً لَهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُجْبِرُهَا أو يُخْبِرُهَا نعم يُخْبِرُهَا أَنَّ لَهَا طَلَبَ الْخُلْعِ مِنْهُ بِعِوَضٍ تَدْفَعُهُ لَهُ فَإِذَا دَفَعَتْ وَرَضِيَ الزَّوْجُ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِهِ وَفَسَخَ النِّكَاحَ وَهَذَا هُوَ الْخُلْعُ وَهُوَ الْبَابُ الْآتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ. Par contre, lorsque c'est l'épouse qui fait preuve de négligence vis-à-vis des droits de son mari, en étant par exemple une femme qui montre de l'aversion et de la haine et de la détestation envers son mari, et autre que cela, eh bien le juge lui informera la femme que elle devra et elle peut demander ce qu'on appelle al-khul', la séparation particulière qu'on appelle al-khul', en versant une compensation à son mari. Donc une fois qu'elle a versé cette compensation à son mari et que son mari est d'accord, le juge pourra prononcer ici la suppression ou l'annulation du contrat de mariage. Et c'est ce qu'on appelle, ce procédé-là, c'est ce qu'on appelle al-khul'u. Et c'est la chose dont on parlera dans le chapitre suivant, bi-idhnillahi azza wa jal, au prochain cours. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.